Bonjour à tous. Donc Charles et Laetitia, nous habitons à côté d'Ars, dans l'Ain. Nous sommes foyer amis, nous avons 6 enfants, dont un au ciel. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour un beau thème, un thème qui ne peut que nourrir notre prière. On va redécouvrir ensemble ce que la liturgie catholique a développé depuis 20 siècles pour nous permettre de nous unir et de partager la joie des anges. La nature profonde de la création, la finalité de la création, c'est la gloire de Dieu. On trouve ça dans Lumen Gentium. Et les anges, ils sont dans la vision béatifique. Et Jean, dans l'Apocalypse, écrit qu'il entend, je cite, la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Cette louange des anges est perpétuelle. Elle est celle de l'Église, qu'on appelle l'Église triomphante, les bienheureux et les anges. Car ces anges contemplent constamment la face de mon Père qui est aux cieux, dit Jésus dans l'évangile de saint Matthieu. C'est d'ailleurs le sens de l'expression Église triomphante. C'est l'Église qui exulte, l'Église qui se réjouit car elle est sauvée, car elle contemple Dieu.
Cette joie du ciel, l'Église nous donne de la goûter par la liturgie sur la terre. Benoît XVI, dans l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, le sacrement de l'amour, écrivait « Dans l'Eucharistie se révèle le dessein d'amour qui guide toute l'histoire du salut. En elle, Dieu s'engage pleinement avec notre condition humaine. Dans le pain et le vin, sous les apparences desquelles le Christ se donne à nous à l'occasion du repas pascal, c'est la vie divine tout entière qui nous rejoint et qui participe à nous sous la forme du sacrement. Dans le Christ, mort et ressuscité, et dans l'effusion de l'Esprit-Saint, donné sans compter, nous sommes rendus participants de l'intimité divine. Jésus-Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, comme une victime sans tache. Il s'agit d'un don absolument gratuit qui répond seulement aux promesses de Dieu, accomplies au-delà de toute mesure. L'Église accueille, célèbre et adore ce don.
En somme, il y a un mouvement avec une articulation qui est celle-ci. La création de Dieu, elle trouve sa fin, sa finalité, sa joie dans la contemplation de Dieu. Deuxièmement, les anges et les saints qui sont au ciel sont déjà dans cette joie de la vision béatifique. Et troisièmement, l'Église nous aide à nous unir à cette joie de ceux qui sont dans les cieux par la liturgie terrestre. Nous voudrions aborder ici 3 points. La liturgie des heures, brièvement, quelques liturgies de la piété populaire, et puis évidemment le centre, ce sera la Sainte Messe. Alors, premier point donc, la liturgie céleste dans la liturgie des heures. Dans l'Apocalypse, saint Jean, parlant des anges et de ceux qui sont aux cieux, affirme, je cite, « Il disait d'une voix forte, il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » C'est un cantique que l'on chante dans les vêpres. La liturgie des heures nous associe à cette acclamation perpétuelle qu'il y a dans les cieux. La prière du matin et la prière du soir, celle des laudes et celle des vêpres, nous associent à la visite de l'ange Gabriel dans notre histoire. En effet, le cantique du matin est celui que chante Zacharie, qu'on appelle le Benedictus, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël ». Zacharie, c'est un juif pieux qui attend le Sauveur, qui toute sa vie a attendu le Sauveur, et c'est par lui que la bonne nouvelle commence. Je cite un peu longuement parce que c'est intéressant, parce qu'il y a des éléments de la liturgie juive. Tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Les laudes, donc, nous font commencer la journée par l'action de grâce de Zacharie à qui l'ange s'est adressé.
Et les vêpres nous font entendre la joie de Marie dans le Magnificat. La joie qui vient de l'annonce de ce même ange Gabriel, qui se manifeste par le tressaillement d'allégresse de Jean qui rencontre Jésus. La liturgie des heures nous met donc en présence de l'allégresse de Zacharie et de Marie au début et à la fin de notre journée. Les 150 psaumes du bréviaire nous font continuer la prière juive. Ils mettent sur nos lèvres ces psaumes que Jésus récitait lui-même avec tous ceux qui espéraient le Sauveur. Et ces psaumes sont emplis de la présence des anges. Par exemple, dans le psaume 137, « Je te chante, Seigneur, en présence des anges. » Et le psaume 90, « Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. » De même, chaque dimanche matin et chaque jour de fête, nous chantons avec le cantique de Daniel « Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. » Enfin, la prière de la journée s'achève dans l'office des complis dont la prière finale demande « Nous t'en supplions, Seigneur, visite cette maison et repousse loin d'elle toutes les embûches de l'ennemi, que tes saints anges viennent l'habiter pour nous garder dans la paix et que ta bénédiction demeure à jamais sur nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. »
Avant d'aborder la messe, nous ne pouvons pas mentionner, même brièvement, le chapelet et l'Angélus. Ces expressions de la piété populaire, qui rythment la journée depuis des siècles, sont un ressassement, une rumination de la salutation angélique, du dialogue entre l'ange et Marie. Et peut-être l'oublie-t-on, mais c'est bien la parole de l'ange Gabriel, « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. » Et certainement que l'ange du sourire, celui qui est sur les... l'ange du sourire de la cathédrale de Reims, arbore ce même sourire de l'ange Gabriel, tout heureux d'aller saluer Marie. À notre tour, nous aussi, arborons ce sourire béat d'admiration lorsque nous saluons la Sainte Vierge. Le Saint Curé d'Ars, à côté de chez nous, était toujours tout sourire lorsqu'il s'adressait à la Vierge.
Nous allons maintenant aborder notre propos principal, l'union à la joie des anges dans la liturgie de la messe. Alors dans l'Eucharistie, l'action de grâce. La joie dans la liturgie provient du fait que nous soyons sauvés. C'est pour cela que nous nous unissons à l'Eucharistie. Nous exultons dans une action de grâce. En effet, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, écrit Paul à Timothée. En envoyant son Fils unique, en le livrant au bourreau, il nous donne l'instrument de notre salut. Le Christ, dans le mystère de Pâques, accomplit notre rédemption. En mourant, il a détruit notre mort et en ressuscitant, il a restauré la vie. C'est la préface de Pâques. Notre joie provient de ce que nous soyons sauvés. Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous a délivrés du pouvoir de Satan ainsi que de la mort. Il nous donne la vie éternelle. Mais grâce à la liturgie, cette rédemption n'est pas un acte passé, mais présent à chaque instant. Nous trouvons dans Sacrosanctum Concilium, le Christ est présent dans les actions liturgiques. Il est là, présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre. Dans les sacrements, l'œuvre de notre rédemption s'accomplit et la liturgie met des mots et des signes sensibles, visibles et audibles sur cette réalité invisible.
Dans la déclaration conciliaire, un instant, Sacrosanctum Concilium, donc c'est la déclaration sur la liturgie du Concile Vatican II, il est écrit « Dans la liturgie terrestre, nous participons à un avant-goût de cette liturgie céleste qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem, à laquelle nous tendons comme des voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu, comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle. Avec toute l'armée de la milice céleste, nous chantons au Seigneur l'hymne de gloire. En bref, notre joie provient de ce à quoi nous assistons. C'est le sacrifice de notre rédemption. Et nous nous unissons à la joie céleste, celle des anges et de ceux qui sont sauvés, l'Église triomphante. Le culte que nous rendons à Dieu sur la terre participe au culte céleste rendu par les anges eux-mêmes qui le louent et le servent jour et nuit dans le ciel. Et même si notre louange à nous est inconstante, une même liturgie unit l'Église militante de la terre, c'est-à-dire l'Église visible de ceux qui mènent le bon combat de la foi, et l'Église invisible, triomphante du ciel. Une illustration qui sera très parlante, c'est certainement un des plus beaux chants de la liturgie, c'est le chant de l'Exultet dans la nuit de Pâques. Le prêtre célébrant s'associe à la joie des anges et il s'écrie, je pourrais le chanter mais je chante très mal, mais voilà, qu'exulte dans le ciel la joie des anges. Exultez, célébrez les mystères divins. Résonne, trompette du salut, pour la victoire d'un si grand roi. Que la terre, elle aussi, soit heureuse, irradiée de tant de feu, illuminée de la splendeur du roi éternel, qu'elle voit s'en aller l'obscurité qui recouvrait le monde entier. Réjouis-toi, Église notre mère, parée d'une lumière si éclatante, que retentisse dans ce lieu saint l'acclamation de tous les peuples. Dans la lune de Pâques, mais aussi à toute messe, nous exultons avec le ciel pour, je cite, c'est un sermon de saint Augustin, pour l'heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur.
Nous allons maintenant parler de la liturgie et de la participation active des fidèles. L'Église a toujours eu à cœur la sanctification des fidèles et s'est efforcée de nous faire participer à notre salut. Pie XII, dans Mediator Dei, affirme que nous sommes des êtres vivants, doués de raison et de volonté personnelle. L'œuvre de la rédemption requiert notre effort intérieur pour pouvoir nous conduire au salut éternel. C'est ce qu'au XXe siècle, à la suite du mouvement liturgique de Don Guéranger, on a nommé la participation active des fidèles. Mais cette notion est bien plus ancienne et le Concile de Trente déclarait déjà en 1562. Le Saint-Concile ordonne aux pasteurs et à tous ceux qui ont charge d'âme que souvent, au milieu de la célébration de la messe, ils expliquent eux-mêmes ou fassent expliquer par d'autres quelque chose de ce qui se lit à la messe et particulièrement qu'ils s'attachent à faire entendre quelques mystères de ce très saint sacrifice, surtout les jours de dimanche et de fête. Notre joie de la liturgie est donc nécessairement liée à notre intelligence et à notre compréhension du culte. Certes, malgré notre raison, nous ne pouvons pas tout comprendre du sacrifice de la messe, car il est mystère de foi, inépuisable par notre intelligence. Mais la liturgie et les ministres du culte doivent nous faire entrer, par la beauté, les chants, la solennité, les paroles, le sermon, nous faire entrer dans la compréhension de ce mystère, cause de notre joie. C'est ce que lance le prêtre en reprenant l'Apocalypse de Jean, « Heureux les invités aux noces de l'agneau ». Nous voudrions aussi souligner l'importance de la préparation du culte, préparation dans notre vêtement, dans le soin apporté au bâtiment, dans le fleurissement, soin aussi dans nos réponses durant la messe et l'attitude de nos corps. En effet, par nos gestes de dévotion et par la clarté de nos réponses pendant la messe, nous exprimons notre foi. La liturgie de la messe emprunte pour beaucoup de signes de cette liturgie céleste et du culte juif. Aux blanches, encens, clochettes, chants, hiérarchie, et aussi la musique qui participe à sa fin générale, qui est la glorification de Dieu et le salut des âmes, nous dit Pie X.
Saint Pie X. Le Saint-Père Léon XIV commente en ce moment, depuis un mois et demi, dans les catéchèses du mercredi, la constitution sur la liturgie Sacrosanctum Concilium. Il disait, c'était il y a 3 semaines, je crois, à propos de nos gestes et des rites. Je cite, « Le rite, qui en général n'a pas bonne presse, mais voilà, le rite donne forme à l'action liturgique et à travers elle à notre vie, suscitant en nous une sensibilité spirituelle qui nous rend capables de goûter la présence de Dieu par Jésus-Christ. Naturellement, cela se produit si nous ne restons pas des spectateurs étrangers ou muets face à la liturgie, mais si nous y participons de tout notre être, corps, esprit et cœur. Le rite nous plonge dans une séquence bien définie de gestes et de prières qui peut parfois contrarier notre tendance individuelle à la spontanéité. Sa logique, cependant, n'est pas d'enfermer la liberté dans des schémas. Au contraire, la sobriété solennelle de ces rythmes, le rite interrompt les activités frénétiques, nous ramenant à l'essentiel. Nous découvrons ainsi une autre dimension de l'agir, qui n'est pas guidée par des calculs de rendement, et une autre expérience du temps et de l'espace. Dans le rite, nous faisons l'expérience d'une logique de gratuité. Nous trouvons une pause qui régénère le cœur. Nous reconnaissons que nous sommes précédés de la grâce divine. Nous apprenons à vivre dans un rythme habité par l'Esprit Saint. Pour résumer, le rite nous permet d'abandonner la temporalité humaine pour mieux appréhender celle du ciel.
Saint Jean Chrysostome nous dit « Lorsque la messe est célébrée, le sanctuaire est rempli d'une infinité d'anges qui adorent la divine victime immolée sur l'autel. » Pour parler un peu du déroulement de la messe, nous allons vous citer encore Léon XIV qui, le 24 juin dernier, à propos de la scène du Seigneur, reprend la déclaration du Concile. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne et pour confier ainsi à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est mangé, l'âme est comblée de grâce, et le gage de la gloire future nous est donné. » Et Benoît XVI, dans Sacramentum Caritatis, s'exclame « Quel émerveillement dut saisir le cœur des disciples face aux gestes et aux paroles du Seigneur au cours de la scène. Quelle merveille doit susciter aussi dans notre cœur le mystère eucharistique. »
La liturgie dominicale, à l'image de la Sainte Cène justement, est partout empreinte de la présence des anges et de leur joie. Dès le début de la liturgie dominicale, nous chantons un des premiers chants liturgiques de l'Église. Un chant qui nous vient directement du ciel, c'est celui des anges lors de la nuit de Noël, qu'on appelle l'hymne angélique. Il est rapporté dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 2. L'ange dit au berger « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle » qui sera une grande joie pour tout le peuple. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Nous chantons pendant la messe en présence de ces mêmes anges qui réjouissaient le cœur des bergers lors de la nuit de la nativité. Cette présence angélique est encore plus frappante lorsque retentissent les cloches et les clochettes qui emplissent toute l'église et tous les environs lors du Gloria de Noël. À propos de la liturgie de l'Eucharistie, le centre. À l'Eucharistie, nous participons sacramentellement à la liturgie céleste, aux côtés du prêtre et des ministres. Dès la préface, le prêtre introduit le chant du Sanctus en invoquant les anges. Par exemple, c'est frappant dans la préface de Noël, mais c'est aussi dans toutes les préfaces. C'est à la fin de la préface, c'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Sanctus. Le Sanctus, justement, est une hymne triomphale employée dès le IIe siècle qui reprend le cantique que le prophète Isaïe entendit chanter par les séraphins. Donc c'est dans le livre d'Isaïe au chapitre 6, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé, Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre « Saint, Saint, Saint le Seigneur des armées !» Toute la terre est remplie de sa gloire. Les armées évoquées sont les armées des anges. Et cet hymne est suivi de l'acclamation joyeuse avec laquelle les Juifs reçurent le Sauveur lors de son entrée triomphale à Jérusalem. « Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. »
La consécration est une fenêtre ouverte sur le ciel. Et saint Grégoire d'affirmer « Les cieux s'ouvrent et une multitude d'anges viennent assister au saint sacrifice. » Dans le canon romain, à la prière eucharistique 1, le célébrant demande à Dieu que notre offrande soit portée par son ange en présence de sa gloire sur son autel céleste. Pour la fête Dieu de 1918, saint Jean-Marie Vianney habilla de blanc les enfants de sa paroisse. Alors, disait-il, en les revêtant lui-même de leur tunique, vous penserez que vous êtes devant le bon Dieu et que vous tenez la place des anges. Les enfants de cœur, dans leur robe blanche qui est la robe du baptême, mais aussi le vêtement qui les fait ressembler à des anges, encensent le saint sacrifice. Cet encens est partout présent chez Isaïe, dans l'Apocalypse, comme étant un geste par lequel les anges rendent honneur à Dieu. C'est aussi l'un des cadeaux faits à l'enfant Jésus. Cela faisait pratiquement 1000 ans que la liturgie juive l'utilisait pour la prière quotidienne. Offrir l'encens à Dieu, parce que c'est le symbole de la prière pure qui s'élève en adoration. Le sacrifice de l'encens, parce que l'encens est détruit par la combustion, et qu'il est ainsi une image du sacrifice de l'Holocauste où tout est donné à Dieu. L'encens est notre prière qui s'élève paisiblement vers le ciel en attitude d'adoration. En même temps, c'est le parfum de notre prière gratuite, celle de notre joie, de notre action de grâce unie à celle des anges. Le parfum de notre abaissement devant sa toute puissance. Mère Cécile Bruyère, fondatrice de Sainte-Cécile de Solesmes, nous appelait à être des encens vivants dont les anges eux-mêmes font monter la fumée dans des encensoirs d'or. On trouve cette citation dans le livre « De la vie spirituelle et l'oraison ».
Pour confidence, ça doit faire 25 ans que je sers la messe et je trouve que le rôle le plus beau, c'est celui du turiféraire, celui qui porte l'encens et qui est à genoux au moment du Saint-Sacrifice et qui est le rôle qui l'identifie le plus à la place des gens, des anges dans le ciel, celui qui tient l'encensoir devant le trône du Père, devant le sacrifice de l'agneau, au moment de l'élévation en particulier. Saint Jean-Marie Vianney, à propos justement de la consécration de l'hostie, le Saint Curé d'Ars bénéficiait de visions angéliques, il disait « Ah, si nous avions les yeux des anges, en voyant notre Seigneur Jésus-Christ qui est ici présent sur cet autel et qui nous regarde, comme nous l'aimerions. Nous ne voudrions pas nous en séparer. Nous voudrions toujours rester à ses pieds. Ce serait un avant-goût du ciel. Tout le reste nous deviendrait insipide. » Mais voilà, c'est la foi qui manque. Nous sommes de pauvres aveugles. Nous avons un brouillard sur les yeux. La foi seule pourrait dissiper ce brouillard.
Alors avec tous les anges, nous adorons le pain des anges, le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu. Comme nous le lisons dans la séquence de la fête du Saint-Sacrement, extraite du Laudation de saint Thomas d'Aquin. Enfin, le célébrant, après avoir repris les paroles de Jean le Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde », nous invite, par les paroles de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse au chapitre 19, où il nous dit « Puis l'ange me dit, écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Il ajouta « Ce sont les paroles véritables de Dieu. » Ainsi, nous sommes invités par les anges eux-mêmes à participer à ce repas, préfiguration du banquet éternel où nous communierons dans la joie de la communion des saints.
Benoît XVI insistait beaucoup, notamment dans cet ouvrage « Le sacrement de l'amour », qui date de 2007, il insistait beaucoup sur l'humilité du prêtre et sur l'art célébrante, l'art de célébrer. Il soulignait en particulier la beauté, la nécessité de la beauté des célébrations. Il écrit « La beauté de la liturgie fait partie de ce mystère. Elle est l'expression très haute de la gloire de Dieu et elle constitue, en un sens, le ciel qui vient sur la terre. Le mémorial du sacrifice rédempteur porte en lui-même les traits de la beauté de Jésus, dont Pierre, Jacques et Jean ont donné témoignage quand le maître, en marche vers Jérusalem, voulut être transfiguré devant eux. Par conséquent, poursuit-il, la beauté n'est pas un facteur décoratif de l'action liturgique. Elle en est plutôt un élément constitutif, en tant qu'elle est un attribut de Dieu lui-même et de sa révélation. Tout cela doit nous rendre conscients de l'attention que nous devons avoir afin que l'action liturgique resplendisse. » Occasion nous est donnée ici, pour conclure, de remercier les dominies pour la beauté et pour le soin apporté à la liturgie, pour ouvrir notre cœur et le cœur de nos enfants à la présence de Dieu. Il manifeste à nouveau le « Il est là » que prononçait souvent le Saint-Curé d'Ars en désignant Jésus au tabernacle.